un jour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, donc, vous des histoires, des contes, tout un tas de choses. Vous aviez remarqué que c'était le printemps ? Non, effectivement, il tarde un peu, mais il est quand même là, sur le calendrier en tout cas. Et depuis que le printemps est là, on a raconté des histoires d'amour, ou plutôt une histoire d'amour qui court sur trois émissions. Et voici donc la troisième. Mais avant de commencer à terminer cette longue histoire de chez Mezeila, parlons un peu de ça. C'est quoi ça au fait ? Eh oui, on dit souvent ça, parce qu'on n'ose pas trop expliquer. De l'homme et de la femme. Oui, c'est un terrain miné, je le sais, un terrain dangereux. Pourquoi ? C'est vrai, on peut se demander. Pourquoi ce trouble et ces remous ? Peur, curiosité, attirance, répulsion, ambivalence profonde. Et tourbillon dans la conscience, dans le cœur, dans le corps. Ça fait peur. On le tait, c'est le jardin secret. Faut-il ouvrir la porte du jardin secret ? Y aurait-il sacrilège à le faire ? Chacun le sien, dit-on. Sont-ils si différents ? Pourquoi pas des jardins partagés ? Allée de la première rencontre, impasse de l'éjaculation précoce. Sont-ils si différents ? Pourrait-on vivre sans ça ? Sans la différenciation entre l'homme et la femme ? Quiconque a vécu ce moment, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Quiconque a senti ça, cet appel, ce printemps, le sait. Le désir, c'est l'énergie de vie même, la fontaine de jouvence. Ce qui fait se dresser le matin les membres masculins, mais aussi tous et toutes debout pour la vierge journée qui s'annonce. C'est si fort, on le tait, on n'ose pas. Osons marcher en terrain miné. Prenons le risque. Tiens, je vais faire des confidences. En fait, depuis tout petit, je me pose pas mal de questions. Comme tout le monde, bien sûr. Par exemple, pourquoi le rouge à lèvres ? Et le parfum ? Depuis tout petit, parce que, messieurs, vous vous rappelez comment ça se passe quand on est petit ? On attire déjà les femmes. Souvent des femmes d'un certain âge, je dirais. Mais quand on est petit, on ne se rend pas bien compte. Des femmes avec des décolletés. Et puis une grande bouche pleine de rouge à lèvres. Des fois, ça déborde rouge, orange foncé même. Mais qu'il est mignon ! Regardez-moi ce grand garçon. Et smack, et smic. Viens t'asseoir sur mes genoux, mon petit tout. Et moi, je faisais bonne figure. Sois gentil avec la dame. Mais j'avais comme un malaise. Et puis, cette odeur. Depuis, j'ai du mal avec les parfums. Et avec les femmes aussi. Mais ça m'a passé. Enfin, quand même, un jour, j'ai fini par comprendre pourquoi. Pourquoi ce malaise ? C'est pas si vieux, c'était il y a une dizaine d'années, en lisant « Science et avenir ». C'était un dossier sur les chimpanzés et les bonobos. Et un primatologue expliquait comment les femelles singes attirent et stimulent leurs mâles. C'est assez direct chez eux. Elles se tournent et elles se baissent. Du coup, le cousin chimpanzé y voit deux fesses rondes et une vulve bien rouge, parce que chez les cousines, c'est rouge-rouge. Et ça le rend fou de désir. Ça marchait pareil pour les australopithèques. Mais quand l'homme a commencé à se redresser, ça n'a plus été pareil. Parce que ça se faisait plutôt par devant, du coup. Mais comme l'homme avait en lui ancré les réflexes d'excitation de son ancêtre singe, il a fallu ruser. J'invente pas là, hein, c'est le spécialiste qui le disait dans l'article. Il a fallu ruser. Enfin, ce sont les femmes qui ont rusé. D'où les seins bien ronds, que tout un attirail met en valeur. Et bien sûr, le rouge à lèvres. Alors pensez bien, pour mon cerveau primate, à même pas 8 ans, c'était un choc. Vous le saviez, mesdames, qu'avec le rouge à lèvres et le Wonderbra, vous ne faisiez que singer vos lointaines cousines. Chose promise, chose due, voici le troisième et dernier épisode de Chez M et Zeila. Alors, comme il y a déjà eu quand même deux épisodes précédents, on peut dire un certain nombre de choses pour éclairer l'auditeur qui n'aurait pas en tête tout ce qui s'est passé. Chez M est tombé amoureux de Zeila, la princesse de Raïta, qui est mariée à un riche bijoutier qui la tient serrée dans sa boutique, enfin dans ses appartements. Or, Chez M s'est fait héberger par une vieille dame qui l'héberge juste en face, cette bijouterie. Et voilà, je vous passe les péripéties, mais ils ont fini par se rencontrer et Chez M a creusé un tunnel qui rejoint ses appartements avec ceux de sa belle. Et au nez et à la barbe du bijoutier, les voilà qui commencent des va-et-vient souterrains pour se retrouver. Et donc, on peut y aller maintenant, puisque je crois que vous avez tout en tête. Voici la dernière ligne droite de l'histoire Chez M et Zeila. Lorsque les deux amants se sont retrouvés ce soir-là, leurs yeux brillaient de désir comme toujours, mais il y avait aussi l'étincelle joyeuse de la malice. L'un contre l'autre, toujours sur le fil, ils aiguisèrent leur malice, comme l'appétit, la malice s'aiguise, alors que la patience, elle s'émousse. À tel point, ils ont aiguisé la leur, et bien elle leur a soufflé une idée folle. Écoutez plutôt. Une fois de plus, Chez M traverse la rue en surface, au vu de tous. Il entre dans la bijouterie. « Mon ami, j'ai encore besoin de vos conseils pour une affaire unique que l'on me propose. Vous seul pouvez m'aider. » Toujours flatté, le bijoutier suit volontiers ce prince si aimable. Une fois installé dans le bureau de Chez M, celui-ci parle à voix basse. Il s'agit d'une femme. Une esclave d'une grande beauté que je me propose d'acheter. On m'en demande tout de même 300 pièces d'or, ce qui n'est pas rien. Aussi, j'aimerais vous la montrer pour que vous me donniez votre avis, une fois encore. Le bijoutier est aux anges. Non seulement ce prince le flatte de sa confiance, mais le service demandé le réjouit d'autant plus. Il dit « Oui, mais bien entendu, je suis à votre service. Montrez-moi donc cette perle rare. » Chez M fait coulisser la teinture derrière lui. Dans la demi-pénombre, elle est là, assise sur un pouf, coiffant sa longue chevelure, le corps nu, rehaussé de bijoux, voiles et foulards. Une merveille absolue. Le visage épanoui du bijoutier s'est peu à peu crispé et a fini par s'immobiliser dans un étrange rictus, les yeux rivés sur la sublime esclave. Vous comprenez pourquoi, sans doute. J'aime aussi, bien sûr. Quelque chose ne va pas, monsieur le bijoutier ? Une affaire urgente, je reviens de suite. Chem ferme le rideau et raccompagne le bijoutier qui ne lâche plus un mot. Lorsqu'il est revenu, quelques dizaines de minutes plus tard, son visage était à nouveau détendu et la parole lui était revenue. « Mon ami, vous comprendrez, mais j'ai été troublé. La jeune esclave que vous m'avez montrée ressemble étrangement à mon épouse, Zeyla. Mais non, ce n'est pas elle. Zeyla, chez elle, dans son bain, comme toujours. D'ailleurs, on dirait qu'elle ne le quitte pas. Tant mieux, répond Chem. Elle n'en aura la peau que plus douce. Mais mon ami, pourquoi vous inquiétez? La belle que l'on me propose n'est qu'une esclave, et croyez-moi, elle n'arrivera jamais à la cheville de la princesse de Raeta, votre épouse. Venez tout de même la voir danser quelque peu, et vous me donnerez votre avis sur le prix. Chem a joué de sa flûte et elle a dansé. Je ne peux rien dire de cette danse. Les mots les mieux choisis non plus ne lui arrivent pas à la cheville. Je ne vais pas danser, bien sûr, nous sommes à la radio. Non, je vais vous inviter à fermer les yeux et imaginer. Les yeux de gazelle, le doré de la peau, le roulement des hanches, le ventre qui respire. Lorsque Chem a refermé la teinture, le bijoutier était tout près de l'apoplexie. Zeyla ne lui avait jamais montré ce grand jeu-là. Une danse aussi suggestive ne laisse pas indemne. Mais il a quand même repris quelque peu son souffle et ses esprits pour reconnaître que le prix était tout à fait raisonnable. Et il songeait en lui-même qu'il avait déboursé plus de 10 fois cette somme avec Zeyla pour amadouer son sultan de père. Merci, merci beaucoup pour ce précieux conseil, répond Chem. Grâce à vous, je vais faire une excellente affaire. Il a raccompagné le bijoutier qui, de retour chez lui, est allé dire un petit bonjour à sa femme tout de même. Il est resté bizarrement planté là, devant Zeyla, dans son éternel bain, l'air songeur. Tout va bien, mon mari? Tout va bien. Après, tout est allé très vite. Chem était dans la ville depuis déjà quelques mois et voilà qu'il annonce qu'il va repartir dans son pays. Le bijoutier est fier de lui offrir une escorte de quelques serviteurs et se propose de l'accompagner un bout de chemin. C'est l'aube. Dans la rue, presque déserte, se trouvent rassemblés, tenant chacun son cheval, Chem, qui arbore à sa ceinture le magnifique poignard de Salomon qu'il a acquis grâce aux conseils avisés de son ami le bijoutier, qui est là aussi avec ses serviteurs. La vieille accompagne la belle esclave qui couvre d'un grand voile sa chevelure en bataille. La voyant, le bijoutier dit « Mon Dieu, j'avais promis d'aller saluer une dernière fois ma femme. Vous devez tenir votre parole. » « Allez-y, ainsi ma compagne pourra terminer la toilette que j'ai interrompue. » Dans l'aube claire, la belle court chez la vieille finir sa coiffure, tandis que tranquillement le bijoutier marche vers sa maison. En apparence, tout est calme. Pourtant, si on voyait ce qui se passe sous terre, ça cavale. Toc, 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 toc. Elle dort encore, monsieur. Je vais la réveiller. Le bijoutier trouve Zeyla dans son lit, mais le rouge aux joues, le front perlé de sueur, haletante. Que vous arrive-t-il donc? Une fièvre, sans doute, et un horrible cauchemar dont je me réveille à l'instant. Vous m'aviez vendu à un étranger et il voulait m'emporter dans son pays de barbares. Et là, en proie à des émotions très profondes, n'eut aucun mal à faire jaillir des larmes de ses doux yeux et son adorable figure en fut toute mouillée. Il n'en fallut pas plus pour attendrir le bijoutier qui la rassura. Jamais il ne la vendrait enfin. Il la salua et ressortit lui-même tout à fait rassuré. Jusqu'à midi, le bijoutier a accompagné Chem. Puis, ils se sont séparés. Chem a préféré lui rendre son escorte et ils ont continué leur chemin seuls, comme Chem savait le faire. Enfin, sorti du tunnel. Et la princesse de Raïta a connu la vie sauvage. Les bains dans les ouèdes, la cuisine et les soirées devant le feu, l'amour à la belle étoile. Elle a aimé ça. Par contre, le retour chez lui du bijoutier fut plutôt raide. De la bouche des deux servantes de la princesse, il apprend qu'elle est partie chez son père et voilà le sultan qui envoie des soldats le chercher. « Qu'as-tu fait de ma fille, bijoutier ?»« Oh, votre grandeur, on m'a dit qu'elle était ici. »« Inutile de mentir, bijoutier, je sais que tu l'as vendue. » Et un des soldats, un des serviteurs de l'escorte matinale, qui était aussi un espion du sultan, raconte alors par le menu comment le bijoutier a accompagné hors de la ville le prince Chem et la princesse Zeyla, qu'il a bien reconnu malgré ses voiles. Comment la fille de votre grandeur pourrait-elle être confondue avec une autre? Le bijoutier s'est mis à trembler. Et peu à peu, l'épouvantable réalité l'a rattrapé. « J'ai été trompé, je ne l'ai pas vendu, on me l'a volé. » Et vous avez gentiment offert une escorte pour que le soi-disant voleur soit en sécurité. Tu as la langue fourchue, bijoutier, mon bourreau va se charger de te faire parler droit. Mais pitié, allons interroger les servantes de Zeyla. Ils y sont allés et le tunnel a sauvé le bijoutier. La vieille a dit qu'elle n'avait rien remarqué de bizarre chez son locataire. Peut-être quelques bruits étranges. Quant aux deux servantes, elles n'étaient plus là. Elles étaient parties. Elles avaient rejoint Chem et Zeyla à un rendez-vous convenu sur la route des montagnes. Et tous, ils ont retrouvé la maison familiale de Chem. Et son père, autant que sa mère, furent émerveillés. Que leur fils ramène à la maison une aussi lumineuse princesse et son escorte de gazelle. Plus tard, la vieille mère a tenu sur ses genoux une ribambelle de petits anges. Quant au vieux père, en compagnie des deux servantes de Zeyla, ces derniers printemps furent particulièrement verts. Et Chem et Zeyla, chut, ne les dérangeons plus. Elles sont parties dans la montagne pour s'aimer aux grandes terres. Depuis leur aventure, ils sont restés un peu claustrophobes. Là-haut, cœur et corps mêlés, ils se chevauchent dans les nuages. Ils dansent l'amour en liberté. Et c'est beau. Dans le bleu profond de la nuit, toutes les étoiles peuvent en témoigner.
Magababa jachin ko, ciego ya son valeta. Se usaba golelato. Catalina coba tu papá. Y a mi chasa patu no papá. Magananyachinu tarlachinu nabara Kedwa Tashakma Sumhede gabaya Hemboi tawara awrana Sishana matayaya
Contarbourg, et bien voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. L'histoire de Chem et Zeyla est une histoire traditionnelle qui nous vient de Somalie, d'Éthiopie, de la Corne de l'Afrique, là-bas. Les musiques, eh bien, il y avait la valse aux adieux de Sarama Balouf. Il y avait aussi Titi Robin, Cheikh Abouche, et pour finir, Ishebelu, un morceau éthiopien chanté par une chanteuse au piano avec une voix tout à fait magnifique. Eh bien, à la semaine prochaine. C'était Compte à rebours. Marco, ciao.